Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'interview spéciale de Debrezel et des Jeux 2018. Nous sommes le 10 juin. Nous sommes en compagnie de Sébastien Kim. Bonjour Sébastien.
Salut.
Donc de la société Catch Up Games.
Tout à fait.
Et bien sûr, je suis accompagné de Dédé Schutz.
Bah oui, toujours là.
Toujours là, fidèle au poste.
Toujours là, fidèle au poste. L'œil rivé sur la buvette de Debrezel et des Jeux.
Ah oui, c'est bien ce qui me semblait en fait. Je crois que tu regardais pas beaucoup les courbes sur le PC.
Je peux faire les deux. J'ai deux yeux.
Alors, Sébastien, comment ça se passe sur Debrezel et des Jeux?
Eh ben, écoute, ça se passe super, comme tous les ans. C'est quand même un chouette festival. Enfin, en termes d'ambiance, il y a quand même une ambiance hyper décontractée et sympa. Là, ça va, on arrive à peu près à passer entre les gouttes en plus. Cette année, j'ai eu un extérieur. Ça, c'est, les années précédentes, j'étais à l'intérieur, donc je m'en suis pas trop rendu compte, mais en tout cas, non, okay. ça se passe nickel.
Content d'avoir changé de localisation. Alors, l'extérieur, c'est bien, un peu plus d'air.
Écoute, là, je dois dire que c'est un peu plus, c'est un peu plus sympa comme condition de travail, Après, ça travaille.
Et donc, t'es venu tout seul? T'es pas venu avec ton double, ton jumeau maléfique?
Non, je suis venu tout seul, comme un grand, enfin, avec les copains éditeurs de la région lyonnaise, grenobloise et bourgoinja lyonnaise et voilà.
Ok, ouais. Je sens que tu t'enlises là.
Aidez-moi.
Et du coup, tu présentes quoi sur le festival?
Alors, qu'est-ce qu'on présente? On présente l'extension de Paper Tales qui est sortie il y a à peu près une semaine, au-delà des portes.
Ah, c'est ça.
Qui est une extension donc qui rajoute du contenu à Paper Tales, surtout passer la configuration jusqu'à 7 joueurs, un mode solo pour les gens qui aiment bien jouer tout seul, des nouvelles unités, des nouveaux bâtiments, donc voilà,
pour varier un peu les parties.
Pas vraiment de mécanisme qui vient s'ajouter au truc, mais beaucoup de contenu additionnel.
Juste peut-être des effets un peu différents, j'imagine, du coup, sur les cartes.
Voilà, ça c'est une extension qui vise surtout à donner beaucoup de renouvellement et de ouvrir vers de nouvelles stratégies, vers de nouvelles combos et des choses comme ça pour les gens qui peuvent avoir l'impression d'avoir un peu fait le tour du jeu de base.
D'accord. Je sais pas si j'avais le sentiment que dans Paper Tales la guerre c'était relativement inévitable quand même.
Alors c'est une impression qu'on peut avoir, je pense, on l'a d'autant plus fortement qu'au début de la partie. C'est un jeu pour moi qui a une lisibilité stratégique qui est pas forcément évidente par rapport à sa complexité. Parce que effectivement, quand on démarre une partie de Paper Tales, la seule source de points de victoire qui est fixe, connue de tout le monde et qui est commune à tout le monde, c'est cet enjeu de la guerre.
C'est ça.
Et du coup, on a tendance à focaliser d'autant plus là-dessus qu'on n'a pas encore bien identifié, via les cartes, via ce qu'on peut développer avec les bâtiments et tout ça, les autres façons de scorer qui peuvent être largement tout aussi lucrative. Alors de toute façon, vu que c'est un enjeu, c'est un peu un fil rouge la guerre, donc si on peut gagner des guerres, on préférera toujours gagner ses points que les laisser à un adversaire en différentiel, mais il y a vraiment, dans une partie, je dirais pas que c'est facile de gagner une partie de Paper Tales en abandonnant toutes les guerres et en faisant rien à aucune guerre, mais par contre on peut à des moments spécifiques du jeu, et c'est une particularité aussi du jeu que de permettre des revirements stratégiques assez rapides. On peut très bien abandonner la guerre sur un ou deux tours identifiés pour faire quelque chose de spécial et de plus productif sur le long terme, sur le long terme entre guillemets.
Du coup, tu confirmes que la laisser tomber complètement sur la partie, c'est pas forcément une bonne idée, parce que surtout si tu fais tu mets des 2 3, l'autre il peut les gagner facilement en mettant 4 5 quoi.
C'est rarement volontaire, ça dépend aussi ce qu'on vous laisse et tout ça. Si les autres joueurs vous laissent toutes les cartes pour faire une stratégie mine qui est vraiment optimisé, je pense que on peut faire plus de points que même en même en oubliant la guerre, mais ouais. Mais c'est vraiment c'est un jeu où on va aussi tenir compte de ce qu'on peut faire par rapport à ce qu'on a reçu.
Ouais.
Et ce qu'on a réussi à récupérer. Ouais.
Du coup, est-ce que l'extension elle vise aussi à rééquilibrer un peu différentes stratégies, à dire je sais pas par exemple, je n'importe quoi, mais la stratégie bois peut-être un peu plus faible, du coup on essaie de faire en sorte que le bois soit un peu plus rentable.
De mon point de vue, ça a pas vraiment vocation à rééquilibrer. Alors après c'est peut-être parce que c'est un discours d'éditeur,
je dis pas le jeu n'était pas équilibré, mais, hein. Je dis est-ce que là, après analyse de plein de parties, vous dites, on vous a fait de retour peut-être, vous avez fait peut-être des stats en vous disant, et peut-être rendu compte, je ne sais pas, hein, que tes trucs étaient peut-être un peu en dessous. Est-ce que l'idée de faire l'extension, c'est aussi du coup de dire on amène des choses plus équilibrées, à bien à mal, alors c'est pas un jugement.
Bien, pas tant, parce que on a quand même la particularité sur ce projet-là d'avoir travaillé, ce qui nous arrive rarement, d'avoir travaillé sur un projet qui était sorti en 2011 au Japon et qu'il a eu l'occasion de retravailler sur ses auto-éditions, de réajuster, même si je pense que c'est Masato Uesugi, c'est quand même quelqu'un qui a une sensibilité de développement sur ce sur cet équilibrage qui est quand même assez assez pointu, parce qu'il travaille avec il programme des intelligences artificielles pour dégrossir son travail d'équilibrage. D'accord. Et donc arriver vite dans les dernières sensations d'équilibrage. D'accord. Et tout ça. Mais non, moi je pense pas. Par exemple, si tu parles de...
En gros, pour résumer, cette extension, c'est pas chercher des équilibres, c'est plutôt chercher vraiment de la diversité.
C'est vraiment chercher du contenu, apporter du contenu supplémentaire pour apporter de nouvelles combos, de nouvelles situations de jeu, de vraiment enrichir. Un peu, alors je comprends toujours un peu à ça, mais un peu comme les premières extensions de Race for the Galaxy, où on va avoir de nouvelles cartes qui vont ouvrir un petit peu, même si je sais qu'elle rééquilibrait un peu sur certains trucs.
D'où un peu ma question, tu vois, parce que dans Race for the Galaxy, on sent bien que, par exemple, la stratégie alien, au début, elle sert un peu à rien, quoi. Ça fait des compléments de points, mais c'est tu peux pas construire une stratégie là-dessus.
Il y avait ça, la stratégie militaire était peut-être un petit peu difficile. Enfin, il fallait avoir beaucoup de chance pour pouvoir monter une stratégie militaire efficace. Et voilà, mais voilà, c'est un peu cette impression d'arriver à un pool de contenu qui est suffisamment varié pour qu'à chaque fois, on a vraiment eu cette impression en découvrant et en jouant avec cette extension que ça faisait vraiment exploser un peu la sensation de richesse.
De richesse de combo. Mais je te rassure, c'est pas du tout une critique, hein. J'ai pas du tout ressenti le jeu comme ça. C'est juste, je pose une question naïve en me disant, voilà, c'est des possibilités qui se font sur des extensions. Est-ce que c'était dans ce but-là ou pas? Très bien. Et qu'est-ce que tu présentes d'autre alors?
Alors on a Q-Birds, qui est un petit jeu de cartes de Stéphane Alexander, illustré par Christian der Nederlanden, qui est un illustrateur néerlandais, comme son nom, son pseudonyme probablement l'indique, qui est sorti là ce week-end, et qui est un petit jeu de cartes probablement la particularité principale d'être illustré avec des oiseaux cubiques dans un style très très graphique.
On a vu ça, c'est très joli en tout cas. Enfin, moi j'aime beaucoup le style graphique qui a été appliqué. Ouais.
Et voilà. Sinon c'est un petit jeu de cartes un petit peu dans la veine de Freak Shop, pour ceux qui avaient connu ce jeu qu'on avait édité d'Henri Kermarek. Donc un petit jeu de cartes avec une mécanique, hein, avec un petit twist qui flirte entre le familial et le et les subtilités un peu plus gamer quelque part, même si ça reste un jeu plutôt familial, comment je fais pour récupérer des cartes. Alors je vais mettre des oiseaux en jeu pour aller récupérer d'autres oiseaux qui sont ceux-là que je veux collectionner pour essayer de scorer sur ces oiseaux-là. Donc ça, c'est un petit jeu d'une vingtaine de minutes qui se joue bien à l'apéro en papotant. Enfin voilà, ça demande pas une disponibilité intellectuelle gigantesque. Ouais. Et voilà, c'est plutôt un petit jeu familial agréable.
Genre feeder, quoi. On peut dire.
Typiquement, après, encore que ça dépend toujours de l'acception, parce que typiquement, dans nos groupes de joueurs qui sont très gamers, ben un filler, c'est Paper Tales ou Race for the Galaxy ou voilà. Des jeux comme ça ou éventuellement Seven Wonders ou des trucs des choses comme ça, mais
ça dépend des sensibilités.
Ouais. Mais voilà, mais c'est un petit filler familial, on va dire.
OK.
Et la dernière chose qu'on présente, c'est Fertility, qui est notre projet prévu pour septembre.
Ouais.
Qui est un jeu de tuiles de Cyril Leroy, avec qui on avait déjà fait Sapiens.
Sapiens, ouais.
Et il continue à explorer un petit peu sa mécanique de
avec les dominos.
De dominos. Voilà.
Du coup, on retrouve. Alors effectivement, j'ai pu l'essayer hier. Et donc effectivement, on retrouve la mécanique des dominos avec le même principe d'ailleurs de j'en pose un, j'en récupère un dans une file. Et du coup avec avec le reste quand même qui est très différent.
Oui, c'est très différent donc à la fois sur le qu'est-ce qu'on fait avec ces dominos. Donc là on va poser sur un plateau commun pour récupérer des ressources. Donc les opportunités de pose qu'on choisit vont définir et les dominos qu'on choisit de poser vont définir quelles ressources on va récupérer pour ce tour. Et on va essayer d'utiliser ces ressources pour approvisionner des boutiques. J'ai pas commencé par le début, ça se passe dans l'Égypte antique et
on est
un nomarque chargé par le pharaon de faire prospérer une province. Et dans cette province on va essayer de construire des quartiers. Dans ces quartiers il y a des boutiques et on va récolter les ressources de la vallée du Nil
pour alimenter
ces boutiques et faire la fête à la fin de la partie parce qu'on est
super riche.
On est le meilleur nomarque.
On a fait la province la plus riche.
Et qu'on a énormément de Deben, la monnaie de l'époque.
Deben, d'accord.
Voilà. Et donc c'est un jeu qui est une utilisation, à la fois c'est une utilisation différente de cette mécanique de domino qui l'obsède un petit peu, Cyril. Et en même temps, c'est aussi, je pense, en termes de positionnement, c'est un jeu qui est un peu plus clairement orienté vers du familial plus, mais qui reste accessible. Enfin, je pense c'est beaucoup plus simple à appréhender qu'un jeu comme Sapiens, qui était un jeu faussement qui avait ses petits airs familial, mais sans être bien sûr un Great Western Trail ou un truc comme ça, mais qui avait quand même une dimension gamer dans la planification que ça demandait, dans le niveau de contrainte, l'exigence de prévoir qu'est-ce qui va se passer si je pose comme ça, je vais peut-être en subir les conséquences dans deux tours et machin. Et là, on est vraiment sur un niveau de
un peu plus opportuniste
de complexité et aussi de gratification qui est plus familiale en fait.
Oui. Est-ce que t'as d'autres choses
dans les tuyaux,
oui. Quand tu voudrais nous parler.
Qu'est-ce qu'on a
la deuxième extension de Paper Tales. Sapiens, ça continue.
Alors Sapiens, c'est terminé. Ça a fait sa petite vie. On est quand même content. Pour nous, c'était quand même notre premier jeu. Sapiens, on en a fait 10 000 en tout, dont 4 000 en France. Pour nous, pour un premier projet, c'était vraiment. En tout cas, on a l'impression de pouvoir comparer avec ce qui se passe en général dans le monde du jeu. On est déjà très content d'avoir fait ça. Alors on doit être un tout petit peu en dessous de Dixit quand même encore, en parlant de premier projet, voilà. On n'a pas plein de ça, mais simplement voilà, on sent bien que le jeu il a atteint son potentiel et que maintenant il y a tellement de jeux qui sortent que c'est difficile de se battre pour maintenir un jeu en vie. On n'a pas les moyens quelque part de le faire quand le jeu a touché son public et que ça, on sent que ça ira pas au-delà. Voilà, c'est
à l'inverse de ce que vous avez fait pour le coup pour Paper Tales. Là vous cherchez à prolonger la vie du jeu et...
Effectivement, parce que Paper Tales, nous à notre échelle, effectivement, c'est un jeu qui a beaucoup plus marché que les autres jeux qu'on a fait. Ça a marché plus vite. Ça a marché aussi. Enfin, on a pas mal de choses qui sont en train de se faire là à l'international. On a un tirage qui à notre échelle est très intéressant pour l'international. On a des partenaires comme Stronghold aux États-Unis qui vont prendre le jeu et qui vont prendre l'extension.
Parce que là, vous en êtes à combien de paper tags écoulés à travers le monde? Pour l'instant, c'était que France.
Là, les jeux sont en fait, les jeux pour l'international sont produits et ils sont en train d'être dispatchés chez chez les partenaires qui vont les porter. Donc, on ne sait pas trop exactement encore ce que ça va, donner. Mais on en a produit un peu moins de 30 000 pour l'international on en est à 8 000 produits en France. Seront probablement écoulés cette année, je pense, peut-être même avant. Je sais pas exactement.
Effectivement, ça s'annonce plutôt pas mal quand même.
Bah, c'est sûr que pour nous, en tout cas, c'est effectivement c'est inédit comme échelle, malheureusement. mais oui, non, c'est très bien. On est à notre échelle où on est deux personnes, ça nous donne vraiment beaucoup d'air au moins pour cette année.
Ouais. Vous salariez là maintenant tous les deux?
Ben on va.
Il y en avait un des deux qui était salarié, je crois, l'année dernière, non?
Alors Tyson. Non, on était à l'époque, on était pas forcément tous les deux à plein temps, mais quoique si c'était Tyson l'année dernière, on devait déjà être tous les deux à plein temps, sauf si tu parles de il y a encore
avant.
Non, on était déjà à plein temps, mais par contre, moi j'étais déjà en fin de droit au chômage depuis un certain temps, donc je commençais à reprendre sur mon apport en.
Ok.
En capital, mais c'est pas du salaire, quoi.
Oui, okay. C'est ça. Ouais. Tu récupères un prêt de.
Voilà,
prêt d'associé.
C'est la société qui te doit.
Qui te rembourse de l'argent, en fait.
En gros, c'est ça. Qui te doit ça, ouais. Mais, okay. Donc tu peux le reprendre sans charge et tout ça, mais se verser un salaire chargé, c'était une étape qu'on ne pouvait pas envisager encore avant maintenant.
Ouais. D'accord, très bien. Bah, écoute, j'espère que. Tout ça va bien se goupiller avec Paper Tales, il n'y a pas de raison, ça a l'air plutôt bien parti du coup. Ça c'est permis par BlackRock si je comprends bien du coup, non?
Oui, alors c'est effectivement on travaille à la fois en France avec BlackRock en distribution depuis cette année. D'ailleurs Paper Tales c'était le premier projet on a travaillé avec BlackRock en France. Entre-temps, ils ont récupéré tout notre catalogue, entre guillemets, parce que je sais pas si on peut parler de catalogue pour un éditeur de notre taille.
Écoute, on peut parler de catalogue. Hein.
Donc notre catalogue,
c'est comme ça que ça se dit en tout cas.
Notre catalogue de 5 jeux.
Ça reste un catalogue. Hein.
On travaille avec l'équipe export de BlackRock.
Du coup, pour chercher les partenariats.
C'est d'ailleurs pour ça qu'à Tyson, on était sur leur stand aussi et qu'on y sera encore cette année. Mmh. Effectivement, ils ont deux personnes chez BlackRock, Thibaut et Hervé, qui travaillent à plein temps, quasiment, en tout cas, pour trouver des
partenariats.
Des partenariats pour les éditeurs qui prennent au catalogue et là en tout cas pour alors ça, ils le font pour l'ensemble de nos jeux après on voit bien que eux dans leur posture le marché international il est quand même devenu aussi plus tendu parce que il y a l'offre elle est aussi démultipliée à l'international et donc les distributeurs ils cherchent aussi à avoir les trucs qui marchent un peu mieux que la moyenne et voilà et donc on peut pas forcément placer tous les jeux comme on aurait besoin de les placer mais typiquement là sur un jeu comme Paper Tales on voit bien que ça marche après bon on a eu la chance d'avoir un bon éclairage sur je pense une plateforme comme Dice Tower qui à mon avis compte pour l'international On a eu vraiment un très très bon éclairage chez eux. On a eu la chance que le jeu leur parle.
Était en français en plus à ce moment-là.
Non, on avait aussi fait un petit tirage en anglais directement à notre compte, là justement pour pouvoir communiquer auprès de l'international. En vendre un peu à Tyson et voilà, le diffuser un petit peu quoi.
Est-ce que tu veux nous parler d'autres choses, donc peut-être de projets à venir ou de ce que t'as mangé ce midi?
Ben j'ai mangé étonnamment un burger ce midi, sinon pour les projets à venir, on travaille depuis pas mal de temps déjà en développement sur un projet qu'on a commencé à montrer à Cannes qui s'appelle Fall of the Ancients, non, qui est un projet d'un auteur brésilien.
D'accord.
Et qui raconte la une guerre entre les civilisations antiques et des aliens qui les auraient visités très tôt dans leur histoire, et voilà.
Un peu Stargate, alors les pyramides finalement c'était bien des pistes d'atterrissage.
C'est voilà. Ça. C'est ça.
Ah, vous avez des infos là-dessus et tout ça.
On a pu vérifier tout ça, même si moi j'ai pas vu Stargate, alors je vais être vite piégé dans cette conversation. Oui, donc c'est un jeu qui est plutôt Eurogame, avec une petite particularité qu'il y a on se fait agresser pendant le jeu par ces aliens et il faut gérer aussi.
Donc c'est quoi, c'est compétitif, mais il y a les aliens qui nous attaquent tous.
Voilà,
c'est ça,
c'est compétitif, mais les joueurs dans leur développement sont un petit peu perturbés par les aliens qui attaquent et on a un système avec une tour à dés. Les attaques aliens sont représentées par des dés et cette
tour
à
dés,
voilà, c'est ça. Il tombe du ciel.
Ok. Et voilà. Avec une dimension, juste le résultat des dés, ou la dimension, les dés atterrissent quelque part et.
C'est ça. C'est en fonction d'où ils vont tomber. Dans des secteurs, d'accord, dans la tour et toucher certains trucs. Voilà. Et les joueurs essayent par ailleurs de développer leur civilisation
malgré les attaques aliens.
Voilà. Et de pas se faire détruire les trucs qui se sont donné du mal à construire.
Ok. Ça, vous visez quoi? Vous visez Cannes plus tard?
C'est un projet qu'initialement on aurait voulu faire ça dès cette fin d'année, mais on veut vraiment prendre le temps de développer quelque chose qui nous satisfasse pleinement et du coup il y a quand même des chances que ça arrive plutôt l'année prochaine et ça arrivera probablement vu le format du jeu. C'est même plus que probable que ça arrive via Kickstarter au départ.
Ah oui, d'accord. Voilà. Vous voulez vous lancer là-dedans alors?
Alors c'est pas
peur.
Alors c'est
les pas codes, tout ça.
C'est pas lié à une volonté de se lancer là-dedans, mais c'est juste que on est sur un jeu qui se dirige pour être un produit qui en soi va être plus adapté à notre sens à Kickstarter que
par rapport au matériel qu'il faut mettre dedans.
Par rapport au matériel, par rapport au type de jeu, par rapport à où s'est déplacé aussi l'attention des joueurs qui sont la cible de ce type de jeu, l'attention première en fait. Nous on est plus là-dedans dans une démarche de se dire c'est devenu difficile de se faire remarquer avec ce qu'on fait et de se dire qu'un jeu comme cela il se ferait probablement peut-être.
Je pense que ça place là-bas par rapport plus, au fait que c'est un jeu plutôt pour gamers.
Plus remarqué, ça va toucher plus des gamers et c'est plus typé Eurogame que ce qu'on a fait jusqu'ici, même si moi je considère que Paper Tales c'est un jeu gamer ou Twelve Heroes aussi. Ouais. Mais c'est pas des Eurogames vraiment dans le sens, dans le fonctionnement.
D'accord.
Et on pense que en termes qu'on arrivera plus facilement à toucher le public premier qui peut être intéressé par ce type de jeu.
Sur Kickstarter.
On compare notre démarche un petit peu à celle des collègues de la boîte de jeu, par exemple chez BlackRock. Oui. De se dire, on pense pas que ce jeu ne peut pas avoir de vie en boutique, mais on pense que pour le lancer, pour créer l'envie initiale sur le projet.
Lancer, donc, sur Kickstarter, pour qu'il y ait ensuite quand même une vie en boutique.
Voilà, mais c'est vraiment de penser le jeu pour qu'il puisse y avoir une version, que ça reste possible de proposer une version en boutique qui soit pas à 120€ ou machin. Enfin, voilà,
C'est une réflexion que vous avez menée avec BlackRock, ou déjà, ne serait-ce que déjà vous deux?
Non, c'est vraiment notre réflexion de départ, parce que déjà aussi, on a ce même, cette même caractéristique que la boîte de jeu, que de vouloir continuer à travailler principalement avec le circuit de distribution traditionnel.
Oui.
Bah, ce projet-là, on se disait qu'on aurait peut-être du mal à faire ressortir ou
en retirer. Que l'implantation soit mauvaise, du coup, c'est ça?
Peut-être que c'est difficile de vendre un jeu comme ça. Alors on a toujours les exemples positifs, les trucs qui sortent vraiment, qui arrivent vraiment à sortir la tête de l'eau. Comme on va pouvoir se dire, mais non, mais il y a des Terraforming de Mars, il y a des Great Western Trail, mais
c'est combien
de jeux, voilà.
Ouais.
Et Et typiquement, nous, on s'était dit assez rapidement quand on a vu typiquement la façon dont la boîte de jeux avait fait son Kickstarter sur Outlive, on s'est dit bah tiens, ça c'est une façon qu'on trouvait plutôt
intelligente
par rapport à l'écosystème global de faire les choses. Là, ils sont en train de le refaire avec Neta Tanka en ce moment. Voilà, sur un jeu qu'effectivement peut-être il y a quelques années serait sorti en boutique en boutique directement,
mais aurait moins marché quoi.
C'est toujours la question de se dire est-ce qu'un jeu comme ça aujourd'hui, s'il est lâché directement en boutique, est-ce qu'il a le même potentiel de vie au global en fait.
D'accord, très bien. Mais écoute, l'avenir nous le dira.
Mais effectivement, voilà, on n'a pas les réponses à ça.
Très bien. Ok, écoute, très bien. Merci beaucoup, Sébastien.
Merci à vous.
Je vous souhaite une bonne continuation pour la fin du festival.
C'est bientôt
la fin.
Pareil pour vous. Ça y est, je vais pouvoir retrouver le fil de ma pensée.
Merci. Bon courage pour démêler tout ça.
Merci.
Au revoir.
Salut.
Ta meilleure tête.
Ah, t'es de la génération qui a pas fait son service militaire.
Non. Et je le regrette amèrement. Kim.
Tu l'écris
K-I-H-M.
K-I-H-M.
Ouais.
Ah, c'est pour faire original le H.
C'est pour faire un peu original. C'est un truc qu'on s'est payé avec notre premier million.